Apollinaire, La rose de Hildesheim ou Les trésors des rois mages. Il y avait à la fin du siècle dernier, à Hildesheim, près de Hanovre, une fille qui s'appelait Ilse. Ses cheveux, d'un blond pâle, avaient des reflets un peu dorés et donnaient l'impression d'un clair de lune. Son visage était clair, avenant et rieur, avec une fossette adorable au menton grasset et des yeux gris qui, sans être fort beaux, seyaient à sa figure et remuaient sans cesse comme des oiseaux. Sa grâce était incomparable. Elle était fort mauvaise ménagère, comme la plupart des Allemandes, et cousait très mal. Les travaux domestiques terminés, elle se mettait au piano et chantait, conduite d'une sirène, ou bien lisait, semblait, en ce cas, une poétesse. Quand elle parlait l'allemand, qui est appelé la langue des chevaux, devenait plus doux que l'italien, qui est la langue des dames. Et parce qu'elle avait l'accent hanovrien, où les S n'ont jamais le son du che, son parler était réellement charmeur. Son père, ayant été autrefois à l'Amérique, y avait épousé une Anglaise, puis après des ans, était revenu au pays natal habiter la maison paternelle. C'est une des plus jolies petites villes du monde que Hildesheim, avec ses maisons peintes de forme étrange, aux toits démesurés. Elle semble sortir d'un conte de fées. Quel voyageur pourrait oublier le spectacle de sa place de l'hôtel de ville, qui est d'un pittoresque fait pour encadrer du lyrique. La demeure des parents d'Ilse, comme presque toutes les raisons de Hildesheim, était très haute. Sa toiture, presque verticale, était plus élevée que toute la façade. Ses fenêtres s'envolaient, s'ouvraient en dehors. Elles étaient nombreuses, il n'y avait entre elles que peu d'espace. Sur les portes et les poutres étaient sculptées des figures pieuses ou grimaçantes, commentées par d'anciens vers allemands ou des inscriptions latines. On voyait les trois vertus théologales et les quatre vertus cardinales, les péchés capitaux, les quatre évangélistes, les apôtres, Saint Martin dans son manteau au mendiant, Sainte Catherine et sa roue, des cigognes, des écussons. Le tout peint de bleu, de rouge, de vert et de jaune. Les étages, avançant l'un au-dessus de l'autre, lui donnaient l'air d'un escalier renversé. C'était une maison multicolore et plaisante. Ilse était venue toute petite dans cette demeure et y avait grandi. Dès qu'elle eut 18 ans, le renom de sa beauté alla jusqu'à Hanovre, mais de là à Berlin. Ceux qui venaient visiter la jolie ville de Hildesheim, son rosier millénaire et les trésors de sa cathédrale, ne manquaient pas de venir admirer celle qu'on nommait la Rose de Hildesheim. Elle fut maintes fois demandée en mariage, mais invariablement, elle répondait, yeux baissés, à son père, qui lui faisait valoir les avantages du dernier prétendant, qu'elle voulait encore rester fille pour jouir de sa jeunesse. Le père disait « Tu as tort, mais fais comme tu voudras. » Et le prétendant était oublié. Lorsqu'il s'est revenait de promenade, toutes les figures découpées sur la maison souriaient en lui souhaitant la bienvenue. Les péchés lui criaient en cœur. « Regarde-nous, il sait. Nous figurons les sept péchés capitaux, c'est vrai. Mais ceux qui nous ont découpés et peints n'avaient eux-mêmes pas assez de malice pour que nous devinssions des péchés mortels. Regarde-nous. Nous sommes sept péchés véniels, sept peccadilles. N'essayons pas de te tenter. Au contraire, nous sommes si laids. » Les vertus théologales et mondaines, se tenant par la main, comme pour baller en rond, chantait « Ringel, ringel, raille, nous sept, nous figurons la vertu. Regarde-nous, souris-nous, aucune de nous n'est si belle que toi. Ringel, ringel, raille. » Or, Ilse avait un cousin qui étudiait Heidelberg. Il s'appelait Egon. Il était grand, blond, large d'épaules et rêveur. Les jeunes gens se virent à Dresde pendant des vacances et s'aimèrent. Ils se le dirent devant le tableau de Raphaël, l'admirable Madone Sixtine, dont ils servaient un peu les traits d'angélique douceur. Egon demanda la reine main d'Ilsé, mais naturellement le père exigea fortune et position. Et, retourné à Heidelberg pendant les loisirs que lui laissaient ses études et les duels de la Rixgasse, le jeune homme s'en allait du côté du château, dans l'allée des philosophes, rêver au moyen de conquérir la fortune qui devait lui donner sa cousine. Un dimanche de janvier, comme il était allé au sermon, le pasteur parla des sages d'Orient qui vinrent visiter Jésus dans sa crèche. Il cita le verset de l'évangile de saint Matthieu, où il n'est rien dit quant au nombre et quant à la condition des pieux personnages qui portèrent à Jésus l'or, l'encens, la myrrhe. Les jours suivants, Egon ne put s'empêcher de penser à ces sages d'Orient que, bien que protestants, ils se figuraient, selon la légende catholique, couronnés au nombre de trois, Gaspard, Balthazar et Melchior. Les rois mages, le nègre au milieu, défilaient devant lui. Il se les figura, portant tous trois de l'or. Quelques jours plus tard, il ne les vit plus que sous les traits et le costume de nécromant alchimiste, transmuant tout en or sur leur passage. Toute cette fantasmagorie ne lui était suscitée que parce qu'il aimait l'or qui lui permettrait d'épouser sa cousine. Il en perdit le boire et le manger, comme si, nouveau Midas, il n'eût plus eu pour aliment que les lingots transmis par les astrologues, dont la cathédrale de Cologne s'honore de posséder les ossements. Il fouilla les bibliothèques, lisant tout ce où il était question des trois rois mages. Le vénérable Bède, les légendes anciennes et tous les auteurs modernes qui ont discuté l'authenticité des évangiles. Puis, en marchant, il roulait des pensées dorées. Quelle valeur inestimable doit avoir ce trésor d'or fin! Il n'est écrit nulle part que ce trésor ait été distribué, employé, dépensé, dérobé ou trouvé. Enfin, un soir, il s'avoua qu'il voulait le trésor des rois mages. Outre le bonheur amoureux, cette trouvaille lui donnerait une gloire incontestable. Ses allures bizarres intriguèrent bientôt les professeurs et les étudiants de Heidelberg. Ceux qui ne faisaient pas partie du même corps que lui n'hésitaient pas à dire qu'il était fou. Ceux de son association le défendirent, si bien qu'il fut cause d'une série interminable de duels dont on parle encore aux abords du Neckar. Puis les anecdotes coururent à son sujet. Un étudiant l'avait suivi au cours d'une de ses promenades dans la campagne. Il raconta qu'Egon s'était approché d'un bœuf et lui avait parlé. « Je cherche un chérubin. Les analogies m'émeuvent. Je trouve un bœuf. Les chérubins, c'est vrai, sont des bœufs ailés. Mais dis-moi, beau bœuf qui pâture, il se peut que ta bonhomie détienne une part de la science de ces animaux qui font partie d'un des plus nobles hiérarchies célestes. Dis-moi, ne s'est-elle point perpétuée dans ta race la tradition de Noël ? Ne t'honores-tu pas qu'un des tiens ait réchauffé de son souffle l'enfant dans sa crèche ? Et en ce cas, peut-être sais-tu, noble animal créé à l'image des chérubins, sais-tu où est l'or des rois mages ? Je cherche ce trésor qui me fera riche d'une fortune sacrée. Beau bœuf, mon seul espoir, répond. J'ai interrogé les ânes, mais ils ne sont que des bêtes. Elles sont l'image de rien de céleste. Hélas, ces énergiques animaux ne savent qu'une réponse, la rauque affirmation germanique. C'était une fin de crépuscule. Dans les maisons lointaines, les lampes s'allumaient. Des villages luisaient à la ronde. Le bœuf tourna la tête lentement et beugla. À Hildesheim, Ilse, confiante, recevait de son cousin des lettres enthousiastes et amoureuses. Elle et ses parents supposaient qu'Egon était sur le point de faire fortune. Ce fut l'hiver, la neige tomba, tiède d'aspect, comme le duvet des cygnes. Les bonshommes sculptaient des maisons en étaient eux-mêmes recouverts et avaient l'air de grelotter. Ce fut Noël avec ses arbres lumineux autour desquels on chante « L'arbre de Noël, c'est le plus bel arbre qui soit sur la terre. Comme il fleurit joliment, l'arbre miraculeux, quand ses fleurettes luisent, quand ses fleurettes luisent, oui, luisent. » Un matin de gel où les traîneaux glissaient dans la petite ville, arriva une lettre timbrée de Dresde où habitaient les parents d'Egon. Le père d'Ilse, ne trouvant pas ses lunettes, ce fut elle qui lut la lettre à haute voix. La missive était triste et courte. Le père d'Egon racontait que son fils était devenu fou par amour. Il racontait l'histoire du trésor des rois mages, que son fils voulait à tout prix, puis ses fureurs qu'il avait fait interner dans un asile, et que dans sa folie il ne cessait de répéter le nom de sa cousine. À la suite de cette lettre, Ilse commença de dépérir rapidement. Ses joues s'émacièrent, ses lèvres pâlirent, ses yeux prirent plus d'éclat. Elle cessa tous travaux de ménage ou d'aiguille. Elle passait tout son temps au piano ou rêvait. Puis, vers le milieu de février, elle dut s'aliter. À la même époque, une nouvelle émut tous les habitants de Hildesheim. Le rosier millénaire, témoin miraculeux de la fondation de la ville, se mourait de froid et de vieillesse. Derrière la cathédrale, dans le cimetière clos où il grimpe, son bois antique se desséchait. Tout le monde se désola. La municipalité eut recours aux jardiniers les plus habiles. Tous déclaraient impuissants à le faire revivre. Enfin, il en vint un de Hanovre qui entreprit la cure. Il mit en œuvre les ressources les plus savantes de son art. Et un matin, de commencement de mars, ce fut une grande joie dans Hildesheim. Tout le monde s'abordait en se félicitant. Le rosier est ressuscité. Le jardinier de Hanovre lui a rendu la vie au moyen de sang de bœuf savamment employé. Ce même matin, les parents d'Ilse pleuraient auprès du cercueil de leur fille, morte par amour. Quand on emporta la bière couverte d'un drap blanc, les bonshommes découpés et peints qui, couverts de neige, grelottaient sur la façade de la vieille maison, semblaient sangloter. Ringle, ringle, raille, adieu, il sait pour toujours. Adieu, tes péchés vertueux et tes vertus moins belles que toi. Adieu, pour toujours. Devant le convoi, un régiment passa. Les tambours et les fifres sonnaient une musique légère et triste. Et des femmes disaient en s'inclinant, on a ressuscité le rosier légendaire, mais l'on enterre la rose de Hildesheim. »